Chapitre 13. Maugré-Folleuil. Le lendemain matin, l'orage s'était éloigné, mais le plafond de la grande salle restait sombre. Des nuages d'un gris d'étain défilaient au-dessus des têtes, tandis que Harry, Ron et Hermione, assis à la table du petit-déjeuner, étudiaient leur emploi du temps. Un peu plus loin, Fred, George et Ellie Jordan discutaient des meilleures méthodes qui pourraient les vieillir et leur permettre d'être admis comme candidats au tournoi des trois sorciers. « Pas mal le programme de ce matin, on va être dehors toute la journée », dit Ron en parcourant son emploi du temps à la colonne du lundi. « On a botanique avec les poufs-souffles et ensuite soins aux créatures magiques. Nom d'un dragon n'est encore avec les serpentards pour ce cours-là. »«
Double cours de divination cet après-midi », grogna Harry.
La divination était la matière qu'il aimait le moins en dehors des potions. Le professeur Trelawney ne cessait de lui annoncer sa mort prochaine, ce que Harry trouvait à la longue singulièrement agaçant.
« Tu aurais dû laisser tomber, comme moi », dit vivement Hermione en se beurrant un toast.
« Ça t'aurait permis de faire quelque chose de plus intelligent à la place, l'arithmancie, par exemple. »«
Tiens, tu as recommencé à manger, on dirait », fit remarquer Ron en voyant Hermione étaler une épaisse couche de confiture sur son toast beurré.
« J'ai décidé qu'il y avait de meilleurs moyens de prendre la défense des elfes », répliqua Hermione d'un ton hautain.
« Oui, et en plus, tu avais faim »,
dit Ron avec un sourire. Il y eut un soudain bruissement d'ailes au-dessus d'eux et une centaine de hiboux chargés de lettres et de paquets s'engouffrèrent dans la salle en passant par les fenêtres ouvertes. Instinctivement, Harry leva les yeux, mais il ne vit pas la moindre trace de plumage blanc dans cette masse de hiboux et de chouettes aux plumes grises ou marron. Les hiboux décrivaient des cercles au-dessus des tables, cherchant leur destinataire. Une grande chouette hulotte fondit sur Neville long du bas et déposa un paquet sur ses genoux. Neville oubliait presque toujours quelque chose quand il faisait ses bagages. De l'autre côté de la salle, le hibou grand-duc de Drago Malfoy s'était posé sur son épaule, apportant son habituel colis de friandises et de gâteaux envoyés par sa famille. Essayant d'oublier sa déception, Harry reporta son attention sur son assiette de porridge. Était-il possible que quelque chose soit arrivé à Edwige et que Sirius n'ait même pas reçu sa lettre? Il était toujours aussi inquiet lorsqu'il suivit le chemin détrempé qui menait à la serre numéro 3. Le cours de botanique parvint cependant à lui changer les idées. Le professeur Chourave montra aux élèves les plantes les plus laides que Harry eût jamais vues. En fait, elles ressemblaient moins à des plantes qu'à de grosses limaces noires et épaisses qui dépassaient verticalement de leur peau. Elles se tortillaient légèrement et étaient couvertes de grosses pustules brillantes, apparemment pleines de liquide.
« Alors ce sont des bubble bulbs, » annonça vivement le professeur Chourave. « Vous avez percé leur vésicule pour recueillir la pu. »
« Le quoi ?» s'écria Simus Finnegan d'un ton dégoûté.
« Le pu, Finnegan, le pu !» répéta le professeur Chourave. « Et c'est une substance extrêmement précieuse. Alors, n'en perdez pas, surtout. Hein. Vous allez donc recueillir ce pu dans les bouteilles. Mettez vos gants en peau de dragon, car le pu de Bubobulbe peut avoir quelques effets bizarres s'il entre en contact avec la peau sans avoir été dilué. »
Percer les pustules de Bubobulbe était assez répugnant, mais procurait également une étrange satisfaction. Chaque fois qu'une des vésicules éclatait, il s'en échappait une grande quantité d'un épais liquide d'une couleur vert jaunâtre qui dégageait une forte odeur d'essence. Les élèves le faisaient couler dans les bouteilles que le professeur Chourave leur avait données et à la fin du cours, ils en avaient recueilli plusieurs litres.
« Voilà qui va faire plaisir à Madame Pomme-Fraîche, » dit le professeur Chourave en enfonçant un bouchon de liège dans le goulot de la dernière bouteille. « Le pu de Bubobulbe est un excellent remède contre les formes les plus persistantes d'acné. Avec ça, les élèves de Poudlard devraient cesser de recourir à des méthodes désespérées pour se débarrasser de leurs boutons.
« Comme cette pauvre Héloïse Midgen, » dit Anna Abbott, une élève de Poufsouffle. « Elle a essayé d'enlever les siens en leur jetant un sort. »«
Ah, quel idiote !» soupira le professeur Chourave en hochant la tête. « Heureusement que Madame Pomme-Fraîche a réussi à lui remettre le nez en place. » Oui.
Une cloche retentit avec force dans le château annonçant la fin du cours et les élèves des deux maisons se séparèrent. Les poufs-souffles montant l'escalier de pierre pour aller en classe de métamorphose et les griffons d'or prenant la direction de la cabane en bois où habitait Hagrid à la lisière de la forêt interdite. Hagrid les attendait devant sa cabane, une main sur le collier de croque dure, son énorme chien noir. À ses pieds, plusieurs caisses en bois étaient posées sur le sol et croque dure tirait sur son collier en gémissant, apparemment impatient d'en examiner le contenu de plus près. Lorsqu'ils s'approchèrent, ils entendirent un raclement ponctué de petites explosions.
« Bonjour !»
lança Hagrid en souriant à Harry, Ron et Hermione.
« On va attendre les serpentards, ça au moins, oui, ça va leur plaire. Discroots à pétard !»«
Vous pouvez répéter ?» demanda Ron. Hagrid montra les caisses.
« Dark !»
s'écria Lavande-Brown en faisant un bond en arrière.
« Dark !»
était le mot qui pouvait le mieux définir les scroots à pétard aux yeux de Harry. On aurait dit des homards difformes, dépourvus de carapaces, d'une pâleur horrible, d'aspect gluant, avec de petites pattes qui dépassaient aux endroits les plus inattendus et sans tête visible. Il y en avait environ une centaine dans chaque caisse. Long d'une quinzaine de centimètres, ils rampaient les uns sur les autres, se cognant contre les parois, comme s'ils étaient aveugles, et dégageaient une forte odeur de poisson pourri. De temps à autre, des étincelles jaillissaient à l'extrémité de l'une des créatures qui se trouvait alors propulsée de plusieurs centimètres en avant.
« Ils viennent d'éclore, »
dit fièrement Hagrid.
« Vous allez pouvoir les élever vous-même. J'ai pensé, oui, que ce serait un beau projet.
Et pourquoi est-ce qu'on aurait envie de les élever ?»
dit une voix glaciale. Les serpentards étaient arrivés. C'était Drago Malfoy qui venait de parler. Crabbe et Goyle ponctuèrent son intervention d'un petit rire. Hagrid parut pris de court par la question.
« Qu'est-ce qu'ils font, ces animaux-là ? » demanda Malfoy. « À quoi servent-ils ? »
Hagrid ouvrit la bouche. Apparemment, il réfléchissait. Il y eut quelques instants de silence, puis il répondit d'un ton brusque.
« Ça se sera pour le prochain cours, Malfoy. Aujourd'hui, il faut les nourrir, c'est tout. Voilà. On va essayer différentes sortes d'aliments. C'est la première fois que j'en ai de cela. Je sais pas très bien ce qui peut leur plaire. J'ai apporté des œufs de fourmis, des foies de grenouilles et puis un morceau de couleuvre. » « N'aurait qu'à essayer de leur donner un peu de choc. Ouais. »
« D'abord du pu et maintenant ça, » marmonna Sibus. Seule la profonde affection qu'ils éprouvaient pour Hagrid décida Harry, Ron et Hermione à prendre chacun une poignée de foie de grenouille visqueux et à les agiter au-dessus des scrouts à pétards pour essayer de les mettre en appétit. Harry ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela n'était pas parfaitement inutile, étant donné que les scrouts ne semblaient pas avoir de bouche. S'écria Dean Thomas une dizaine de minutes plus tard. « Il m'a eu, ça ! Il m'a eu !» Hagrid se précipita vers lui d'un air inquiet.
« Il a explosé !»
expliqua Dean d'un ton furieux en montrant à Hagrid une brûlure sur sa main.
« Ah oui, ce sont des choses qui arrivent !»
dit Hagrid avec un hochement de tête. « Blaaaaak !» répéta la Lavande-Brown.
« Hagrid, qu'est-ce que c'est que cette chose pointue, là ?»«
Il y en a qui ont des dards !»
répondit Hagrid avec enthousiasme. Lavande retira vivement sa main de la boîte.
« Je pense que ce sont les mâles, oui. Les femelles ont une espèce de ventouse sur le ventre. Ça doit être pour sucer le sang. »«
Je comprends maintenant pourquoi il est si important de les maintenir en vie, » dit Malfoy d'un ton sarcastique. « Qui n'a jamais rêvé d'avoir des animaux de compagnie qui brûlent, piquent et sucent le sang. »«
Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas très beaux qu'ils ne peuvent pas être utiles. » répliqua sèchement Hermione. « Le sang de dragon a des vertus magiques prodigieuses, mais il n'empêche qu'on n'a pas très envie d'avoir un dragon à la maison. » Harry et Ron eurent un sourire et échangèrent avec Hagrid un coup d'œil amusé. Le plus cher désir de Hagrid était précisément d'avoir un dragon chez lui. Harry, Ron et Hermione étaient bien placés pour le savoir, car il en avait eu un pendant une brève période au cours de leurs premières années d'études à Poudlard, un Norvégien à crête, passablement agressif, du nom de Norbert. D'une manière générale, Hagrid avait une passion pour les créatures monstrueuses. Plus elles étaient dangereuses, plus il les aimait.
« Au moins, les scroots ne sont pas très grands, »
dit Ron, lorsqu'à la fin du cours, ils retournèrent au château pour aller déjeuner. « Ils ne le sont pas aujourd'hui, » fit remarquer Hermione d'un ton exaspéré. « Mais quand Hagrid aura trouvé ce qu'ils aiment manger, ils grandiront et finiront peut-être par mesurer 2 mètres de long. »
« Ça n'aura pas d'importance si on découvre qu'ils guérissent le mal de mer ou c'est quoi d'autre, »
répliqua Ron en lui adressant un sourire moqueur.
« Tu sais très bien que j'ai dit ça uniquement pour faire taire Malfoy, » dit Hermione.
« Mais en fait, je pense qu'il a raison. Il vaudrait mieux se débarrasser de ces créatures avant qu'elles commencent à nous attaquer. » Ils s'assirent à la table des Gryffondors et remplirent leurs assiettes de côtelettes d'agneau accompagnées de pommes de terre. Hermione se mit alors à manger si vite que Harry et Ron la regardèrent d'un air intrigué.
« C'est ta nouvelle façon de lutter pour les droits des elfes ?»
s'étonna Ron.
« Tu as l'intention de te rendre malade ?»«
Non. » répondit Hermione avec toute la dignité dont elle était encore capable, en parlant la bouche pleine de choux de Bruxelles.
« Je veux simplement aller à la bibliothèque. »«
Quoi ?» dit Ron d'un air incrédule.
Hermione, c'est le premier jour de classe. On n'a pas encore eu un seul devoir. »
Hermione haussa les épaules et continua à engloutir le contenu de son assiette comme si elle n'avait rien mangé depuis plusieurs jours. Puis elle se leva d'un bond et dit « On se voit ce soir au dîner. » Et elle se hâta de quitter la grande salle. Lorsque la cloche sonna pour annoncer le début des cours de l'après-midi, Harry et Ron prirent la direction de la tour nord, où tout en haut d'un escalier en colimaçon, une échelle d'argent permettait d'accéder à une trappe circulaire aménagée dans le plafond. C'était par là qu'on entrait dans la pièce où habitait le professeur Trelawney et où elle donnait ses cours. Lorsqu'ils émergèrent de la trappe, ils sentirent aussitôt l'habituel parfum douceâtre qui émanait du feu dans la cheminée. Comme toujours, les rideaux étaient tirés devant les fenêtres. La pièce circulaire baignait dans une faible lumière rouge que répandaient de nombreuses lampes enveloppées de châles et d'écharpes. Harry et Ron se faufilèrent parmi les fauteuils et les poufs, recouverts de chintz, où les élèves étaient assis et allèrent s'installer à une table ronde.
« Je vous souhaite le bonjour. »
dit la voix mystérieuse du professeur Trelawney, juste derrière Harry qui sursauta. C'était une femme mince avec des lunettes énormes qui faisaient paraître ses yeux beaucoup trop grands pour son visage. Elle regarda Harry avec l'expression tragique qui était la sienne chaque fois qu'elle le voyait. Son habituelle débauche de perles, de chaînes et de bracelets scintillait à la lueur des flammes.
« Vous êtes préoccupé, mon pauvre chéri, » dit-elle à Harry d'un ton lugubre. « Mon troisième œil voit derrière votre visage une âme troublée. Et j'ai le regret de vous dire que vos inquiétudes ne sont pas sans fondement. Je vois des moments difficiles qui vous attendent. Hélas, oui, très difficiles. Ce que vous redoutez va se produire, je le crains, et peut-être plus tôt que vous ne le pensez. »
Sa voix se transforma presque en un murmure. Ron tourna les yeux vers Harry, qui paraissait imperturbable. Le professeur Trelawney passa devant eux et alla s'installer dans un grand fauteuil à côté de la cheminée, face à la classe. Lavande Brown et Parvati Patil, qui éprouvaient pour le professeur Trelawney une admiration éperdue, étaient assises tout près d'elle sur des poufs.
« Ma chérie, » dit le professeur, « il est temps pour nous de nous intéresser aux étoiles, au mouvement des planètes et aux mystérieux présages qu'elles révèlent exclusivement à ceux qui sont capables de comprendre la chorégraphie de la danse céleste. On peut connaître la destinée humaine en déchiffrant la façon dont les rayonnements planétaires s'interpénètrent.
Mais Harry avait la tête ailleurs. Le parfum qui se dégageait du feu le rendait toujours un peu somnolent et émoussait son esprit. En outre, les bavardages du professeur Trelawney sur l'art de prédire l'avenir ne l'avaient jamais vraiment fasciné. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'elle venait de lui dire.
« Ce que vous redoutez va se produire, je le crains. »
Mais Hermione avait raison, pensa Harry avec agacement. Le professeur Trelawney n'avait jamais raconté que des mensonges. Il ne redoutait rien du tout en ce moment. Si l'on mettait à part ses craintes que Sirius ait été capturé, mais qu'en savait donc le professeur Trelawney ? Depuis longtemps, Harry en était arrivé à la conclusion qu'elle devait sa réputation de voyante à quelques coups de chance dans ses prédictions et à son comportement soigneusement étudié pour faire froid dans le dos. Il fallait mettre à part, bien sûr, le jour où, à la fin de l'année précédente, elle avait prédit le retour de Voldemort. Lorsque Harry lui avait raconté ce qui s'était passé, Dumbledore lui-même avait dit que cette fois, il s'était agi d'une véritable transe. « Harry !» chuchota Ron. « Quoi ?» Harry jeta un coup d'œil autour de lui et vit que toute la classe le regardait. Il se redressa en s'apercevant qu'il s'était presque assoupi, perdu dans ses pensées et engourdi par la chaleur ambiante.
« J'étais en train de dire, mon pauvre garçon, que vous êtes né, de toute évidence, sous l'influence maléfique de Saturne, »
déclara le professeur Trelawney avec une nuance de reproche dans la voix pour lui avoir témoigné si peu d'attention.
« Né sous quoi ? Pardon ?»
dit Harry.
« Saturne, mon garçon. La planète Saturne, » répéta-t-elle, manifestement agacée de constater que la nouvelle le laissait toujours aussi indifférent. « Je disais que Saturne occupait certainement une position dominante dans le ciel au moment de votre naissance. Vos cheveux noirs, votre taille moyenne, une perte tragique à un âge si jeune. Je pense ne pas me tromper, mon pauvre chéri, en affirmant que vous êtes né en plein hiver ?»«
Je suis né en juillet, » dit Harry. Ron se mit à tousser pour dissimuler un éclat de rire. Une demi-heure plus tard, chacun d'eux avait un graphique circulaire sous les yeux et s'efforçait de déterminer la position des planètes au moment de sa naissance. C'était un travail fastidieux qui obligeait à consulter sans cesse des éphémérides et à calculer des angles compliqués. « J'ai deux Neptunes, »
dit Harry au bout d'un moment, fronçant les yeux devant son morceau de parchemin. Il doit y avoir une erreur, non ?
Oh !
Dit Ron en imitant le murmure mystérieux du professeur Trelawney.
Quand deux Neptunes apparaissent dans le ciel, c'est le signe qu'un nain à lunettes est en train de naître, mon pauvre garçon.
Simus et Dean, qui se trouvaient tout près d'eux, éclatèrent de rire, mais pas assez fort pour couvrir les petits cris surexcités de l'avant de Brown.
Oh, professeur, regardez! Je crois que j'ai une planète bizarre. Mais qu'est-ce que c'est, professeur?
C'est la lune, ma chérie,
répondit le professeur Trelawney en regardant sa carte du ciel.
Est-ce que je pourrais voir ta lune, Lavande ?
Demanda Ron. Par malchance, le professeur Trelawney l'entendit et ce fut sans doute la raison pour laquelle elle leur donna à la fin du cours un devoir aussi difficile.
Vous me ferez une analyse détaillée de la façon dont les mouvements planétaires vous affecteront le mois prochain en référence à votre thème personnel.
Lança-t-elle d'un ton sec qui ressemblait beaucoup plus à celui du professeur McGonagall qu'à son habituelle voix éthérée.
Je veux ça pour lundi, sans faute.
Vieille souhaite, rapoucrie.
Cromla Ron avec amertume, tandis qu'il descendait dans la grande salle pour aller dîner.
« Ça va nous prendre tout le week-end, ce truc-là »
« Beaucoup de devoirs, » dit Hermione d'un ton claironnant en les rattrapant dans l'escalier. « Le professeur Vector ne nous en a pas donné du tout. »
« Tant mieux, vive le professeur Vector !»
répondit Ron avec mauvaise humeur. Le hall était rempli d'élèves qui faisaient la queue pour entrer dans la grande salle. Ils venaient de se mettre au bout de la file lorsqu'une voix sonore retentit derrière eux.
« Wesley ! Hey ! Wesley ! »
Harry, Ron et Hermione se retournèrent. Malfoy, Crabbe et Goyle arrivaient derrière eux, l'air ravis.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
demanda sèchement Ron.
« Ton père est dans le journal, Wesley ?»
dit Malfoy. Il brandissait un exemplaire de la Gazette du Sorcier en parlant le plus fort possible pour que tout le monde l'entende.
« Écoute un peu ça. Nouvelle bévue au ministère de la Magie. Il semble que les ennuis du ministère de la Magie soient loin d'être terminés. » écrit notre envoyé spécial Rita Skeeter. Récemment montré du doigt pour l'insuffisance de son service d'ordre lors de la Coupe du Monde de Quidditch, et toujours incapable de donner la moindre explication concernant la disparition de l'une de ses sorcières, le ministère se voit à nouveau plongé dans l'embarras à la suite des fantaisies d'Arnold Wesley du service des détournements de l'artisanat moldu.
Malfoy releva la tête.
« Tu te rends compte, Wesley ?» croissa-t-il. Ils ne connaissent même pas son nom exact. C'est comme si ton père n'avait aucune existence. »
Dans le hall, à présent, tout le monde écoutait. D'un geste théâtral, Malfoy déplia le journal et reprit sa lecture.
« Arnold Wesley, qui fut poursuivi il y a 2 ans pour possession d'une voiture volante, s'est trouvé impliqué hier dans un incident qu'il a opposé à des représentants de l'ordre moldu, appelé gendarme, à propos de poubelles particulièrement agressives. Il semblerait que M. Wesley se soit précipité au secours de Maugret, Folleuil, un ex-aurore d'un âge avancé, qui fut mis à la retraite par le ministère lorsqu'il apparut qu'il était devenu incapable de faire la différence entre une poignée de main et une tentative de meurtre. Comme on pouvait s'y attendre, en arrivant devant la maison transformée en camp retranché de M. Maugret, M. Wesley fut bien obligé de constater que l'ancien aurore avait une fois de plus déclenché une fausse alerte. Avant de pouvoir échapper aux gendarmes, M. Wesley s'est vu contraint de lancer plusieurs sortilèges d'amnésie afin de modifier la mémoire des témoins. Il a cependant refusé de répondre aux questions de la Gazette du Sorcier, qui souhaitait lui demander pourquoi il avait cru bon d'impliquer le ministère de la Magie dans cette bouffonnerie peu digne d'un de ses représentants et dont les conséquences pourraient se révéler fort embarrassantes. « Et il y a une photo, Wesley !»
dit Malfoy en agitant le journal qu'il tenait bien en vue.
« Une photo de tes parents devant leur maison. Enfin, si on peut appeler ça une maison. Ta mère aurait peut-être intérêt à perdre quelques kilos, tu crois pas ?»
Ron tremblait de fureur. Tous les élèves avaient les yeux fixés sur lui.
« Va te faire voir, Malfoy !» dit Harry. « Viens, Ron. »«
Oui, c'est vrai que tu es allé chez eux cet été, Potter. »
lança Malfoy d'un air dédaigneux.
« Alors dis-moi, est-ce que sa mère ressemble vraiment à un cochonnet ou bien c'est simplement la photo qui fait ça ?»
Harry et Hermione retint Ron par le dos de sa robe pour l'empêcher de se ruer sur Malfoy.
« Et ta mère à toi, Malfoy ?»
répliqua Harry. « Pourquoi est-ce qu'elle avait l'air d'avoir une bouse de dragon sous le nez quand je l'ai vue ? Elle est toujours comme ça ou bien c'est simplement parce que tu étais avec elle ?»
Le teint pâle de Malfoy rosit légèrement.
« Ne t'avise pas d'insulter ma mère, Potter. »«
Dans ce cas, ferme-la, » répliqua Harry en s'en allant.
« Bang !»
Plusieurs élèves poussèrent des cris et Harry sentit quelque chose de brûlant lui frôler la joue. Il plongea la main dans sa poche pour saisir sa baguette magique, mais avant qu'il ait eu le temps de la toucher, il entendit un second « bang !» et un rugissement qui résonna dans tout le hall d'entrée.
« Pas de ça, mon bonhomme !»
Harry fit volte-face. Le professeur Maugrey descendait en claudiquant les marches de l'escalier de marbre. Il avait sorti sa baguette magique et la pointait droit sur une fouine qui tremblait de tout son corps sur le sol recouvert de dalles, à l'endroit exact où s'était trouvé Malfoy quelques instants auparavant.
Un silence terrifié régna soudain dans le hall. À part Maugrey Folleuil, personne n'osait faire un geste. Maugrey regarda Harry de son œil normal, l'autre étant tourné vers l'arrière de sa tête.
« Il a été touché !»
grogna Maugrey. Sa voix était grave et rocailleuse.
« Non, » répondit Harry, « il m'a raté. »«
Laisse-le !»
s'écria Maugrey.
« Laisse quoi ?» demanda Harry sans comprendre.
« Pas toi, lui !»
gronda Maugrey en montrant du pouce par-dessus son épaule, crabe, qui venait de s'immobiliser au moment où il s'apprêtait à ramasser la fouine. Apparemment, l'œil mobile de Maugrey était magique et lui permettait de voir derrière sa tête. Maugrey s'avança en boitant vers Crabbe, Coyle et la fouine, qui poussa un couinement terrifié et fila vers l'escalier qui menait au sous-sol du château.
« Non, pas par là !»
rugit Maugrey en pointant à nouveau sa baguette magique sur la fouine qui fit un bond de 3 mètres, retomba avec un bruit sourd sur le sol, puis s'éleva à nouveau dans les airs.
« Je n'aime pas les gens qui attaquent par derrière, » grogna-t-il,
tandis que la fouine faisait des bonds de plus en plus haut en lançant des cris de douleur.
« C'est lâche, c'est minable, c'est répugnant !»
La fouine fut à nouveau projetée en l'air, agitant inutilement sa queue et ses pattes.
« Ne refais jamais ça !»
lança Maugrey en détachant chaque mot au rythme des bonds et des chutes de la fouine.
« Professeur Maugrey !»
s'exclama une voix d'un ton scandalisé. Le professeur McGonagall descendait l'escalier de marbre, les bras chargés de livres.
« Bonjour, professeur !»
dit calmement Maugrey, qui continuait de faire bondir l'animal de plus en plus haut.
« Qu'est-ce que vous faites ?»
balbutia le professeur McGonagall en suivant des yeux l'animal qui se tortillait dans les airs.
« J'enseigne !» répondit-il.
« Vous en... Maugrey, c'est un élève ?»
s'écria le professeur McGonagall d'une voix suraiguë en laissant tomber ses livres par terre.
« Ouais !»
dit Maugrey.
« Non !» hurla McGonagall qui dévala l'escalier sa baguette magique en avant.
Un instant plus tard, il y eut un craquement sonore et Drago Malfoy réapparut, recroquevillé sur le sol, ses cheveux blonds et soignés tombant sur son visage qui était devenu d'un rose brillant. Il se releva en faisant la grimace.
« Maugrey, nous n'avons jamais recours à la métamorphose pour infliger des punitions, » dit le professeur McGonagall d'une voix faible. « Le professeur Dumbledore vous l'a sûrement précisé. »
« Il a peut-être fait allusion, c'est possible. »
répondit Maugrey en se grattant le menton d'un air indifférent.
« Mais j'ai pensé qu'un bon traitement le choque. »
« Nous donnons des retenues, Maugrey, où nous parlons avec le responsable de la maison à laquelle appartient l'élève fautif. »«
D'accord, je le ferai. »
dit-il en regardant Malfoy d'un air dégoûté.
Malfoy, dont les yeux pâles étaient encore humides de douleur et d'humiliation, lança un regard hostile à Maugrey et marmonna quelques paroles inaudibles, parmi lesquelles seuls les mots « mon père » furent prononcés distinctement.
« Ah ouais ?»
dit tranquillement Maugrey en avançant d'un pas claudiquant, ponctué par le claquement régulier de sa jambe de bois qui résonnait dans tout le hall.
« Je le connais depuis longtemps, ton père, mon bonhomme. Tu n'as qu'à lui dire que Maugrey surveille son fils de près. Dis-lui ça de ma part. Le responsable de ta maison, c'est Rogue. « Non ?»«
Oui, » répondit Malfoy d'un ton hargneux.
« Encore un vieil ami. Ça fait longtemps que j'ai envie de bavarder avec le vieux Rogue. Allez, viens un peu par là. »
Il saisit Malfoy par le bras et l'entraîna en direction du sous-sol. Le professeur McGonagall les regarda s'éloigner d'un air anxieux, puis elle agita sa baguette magique vers ses livres qui reprirent tout seuls leur place dans ses bras.
« Ne me parlez surtout pas !»
dit Ron à voix basse en s'adressant à Harry et à Hermione lorsqu'ils furent installés à la table des Gryffondors. Tout autour d'eux, les élèves commentaient d'un air surexcité ce qui venait de se passer.
« Et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas te parler ?»
s'étonna Hermione.
« Parce que je veux graver ça à tout jamais dans ma mémoire, »
répondit Ron, les yeux fermés, une expression d'extase sur le visage.
Drago Malfoy, l'extraordinaire fouine bondissante. »
Ils éclatèrent de rire tandis qu'Hermione remplissait leurs assiettes de ragoût de bœuf.
« N'empêche qu'il aurait pu lui faire vraiment mal, » dit-elle. « Heureusement que le professeur McGonagall l'a arrêté à temps. »«
Hermione !»
s'exclama Ron avec fureur en rouvrant soudain les yeux. « Tu es en train de gâcher le plus beau moment de ma vie !» Hermione, toujours aussi impatiente, recommença à manger à toute vitesse.
« Ne me dis pas que tu retournes à la bibliothèque ce soir, » dit Harry en la regardant dévorer son ragoût.
« Il faut. J'ai beaucoup de choses à faire. Mm-hmm.
Mais tu nous as dit que le professeur Vector...
« Ce n'est pas du travail scolaire, » dit-elle.
Quelques minutes plus tard, elle avait vidé son assiette et quitté la grande salle. À peine était-elle partie que Fred Wesley vint s'asseoir à sa place.
« Maugrey, » dit-il, « vous le trouvez bien ?»«
Mieux que bien, » dit George en s'asseyant en face de Fred.
« Super bien !»
renchérit le meilleur ami des jumeaux, Lee Jordan, en se glissant sur la chaise à côté de George. « On l'a eu cet après-midi, » ajouta-t-il à l'adresse de Harry et de Ron.
« Comment c'était ?» demanda avidement Harry. Fred, George et Lee échangèrent des regards éloquents.
« On n'a jamais eu un cours comme ça, » dit Fred. « Ce type-là sait, » dit Lee. « Qu'est-ce qu'il fait ?»
demanda Ron en se penchant vers eux.
« Il sait ce que ça veut dire de faire les choses, » déclara George d'un ton impressionnant.
« Faire quoi ?» demanda Harry.
« Combattre les forces du mal, » répondit Fred. « Il a vraiment vu ce que c'était, » dit George. « Incroyable !» ajouta Lee. Ron plongea dans son sac pour y prendre son emploi du temps.
« On ne l'a que jeudi prochain, » dit-il d'un ton déçu.